Les suivre est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les studios de RFI à Issy-les-Moulineaux, dans la banlieue parisienne, mais à Meknès, au Maroc, près d'un des immenses chapiteaux du SIAM, le Salon international de l'agriculture marocain, 11e du genre. Ce salon dure 6 jours, il accueille plus de 1200 exposants de plus de 50 nationalités. Et il a pour thème central « Agriculture résiliente et durable ». Ce salon se déroule sur fond d'inquiétude pour l'agriculture marocaine. Après une année 2015 faste, la saison 2016 se présente nettement moins bien en raison de menaces de sécheresse. Alors quel impact pour l'agriculture? Quel est le poids de cette agriculture dans l'économie marocaine? Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour la soutenir? Quelles sont les relations de cette agriculture avec le monde extérieur, avec le reste du continent africain, avec l'Europe, avec la Russie? Telles sont les questions que je vais poser aux deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Najib Akesbi.
Bonjour.
Najib Akesbi, vous êtes économiste, vous enseignez à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II de Rabat. Vous êtes également membre du conseil d'administration de l'Association marocaine de sciences économiques. Vous venez régulièrement ici au Salon de l'agriculture du Maroc?
Plus ou moins, une fois sur deux, je pense.
Pourquoi si peu?
Ben parce que c'est, je pense que le salon est un moment important, hein. Mais je pense que après la 10e édition, il y a peu d'innovation, en tout cas. Surtout, on a l'impression que il y a plus de com que d'infos. On a l'impression que les responsables, le ministère de l'Agriculture en particulier, hein, fait beaucoup plus de com que de l'information instruite, de la pédagogie, saisir l'occasion d'un salon comme ça pour pousser la réflexion les politiques agricoles, le devenir de l'agriculture. Malheureusement, on a l'impression que ces grandes questions, qui intéressent évidemment les professeurs, mais aussi tous les opérateurs, tous les citoyens hein, qui s'intéressent à l'agriculture, on a l'impression que cette dimension, malheureusement, n'a pas sa place dans ce salon.
Alors, on verra ça dans le reste de l'émission, mais laissez-moi vous présenter notre second interlocuteur. Bonjour, Mehdi Lalou.
Bonjour.
Mehdi Lalou, vous êtes également professeur d'économie, mais vous, à l'Institut national de la statistique, vous avez aussi beaucoup travaillé sur les questions de migration. Est-ce qu'il y a un lien ici au Maroc entre agriculture et migration?
Le lien, c'est principalement entre le réchauffement climatique et la problématique migratoire. C'est aussi l'avancée de la désertification dans un certain nombre de régions du Maroc qui fait que beaucoup de gens partent de ces régions affectées par la désertification ou par la rareté de l'eau et partent vers les villes. Et puis après, certains tentent leur chance en situation de migration soit régulière, soit irrégulière en Europe et ailleurs dans le monde.
Alors, au cours de cette émission, nous entendrons de nombreux reportages, tous signés Gaël Lalex du service économique de RFI, l'un consacré aux conditions de travail dans le monde agricole marocain, l'autre à la lutte contre la sécheresse. Nous évoquerons aussi avec elle une grande première, la ligne maritime Agadir-Saint-Pétersbourg, qui permet aux producteurs marocains de s'attaquer au marché russe. Un dernier mot de présentation de cette émission, elle est réalisée grâce au concours financier de l'Union européenne qui a signé un partenariat avec RFI. D'abord, où sommes-nous, monsieur Akesbi? Ce salon, je le disais tout à l'heure, il réunit 1200 exposants. Vous êtes un peu critique, vous dites que c'est un salon où on fait beaucoup de com, pas beaucoup d'informations, pas beaucoup de débats sur les grands problèmes de l'agriculture. Mais ces 1200 exposants qui sont là, qui sont-ils?
Alors justement, précisément d'abord, je pense que il est quand même. Moi, j'aurais souhaité que dans une émission de ce genre, il y ait un débat contradictoire réellement, des points de vue différents. Ben, par exemple, qu'il y a un représentant du ministère de l'Agriculture qui peut défendre le point de vue officiel. Je trouve que c'est un peu dommage, mais en même temps, c'est révélateur. Hein. Quand je vous dis que malheureusement il n'y a pas de débat, je pense que ce qui se passe est assez éloquent. On est depuis pratiquement maintenant une dizaine d'années dans une posture où on met en œuvre une politique. Mais comme toute politique, évidemment, elle peut avoir des aspects positifs, négatifs. Sauf que, pour les responsables, il n'y a que du positif. Il n'y a que « tout va bien, madame la marquise ». Et le salon de l'agriculture est l'occasion annuelle, le rendez-vous annuel, où le ministère de l'Agriculture vient pour dire que tout va bien. Alors, et je pense que, d'ailleurs, cette année, c'est assez caricatural. Et tout le monde sait que nous connaissons une année de sécheresse, que cette année, la récolte céréalière va être en dessous de 40 millions de quintaux. Vous imaginez?
Non, j'imagine pas.
Eh bien, c'est à peu près, je vais vous dire, c'est à peu près le tiers de ce qu'on a récolté l'année dernière. Voilà. Pour vous dire, l'année dernière, on a fait 115 millions de quintaux. Cette année, on va faire, selon les prévisions de Banque Maghreb, parce que le ministère de l'Agriculture, vous voyez, pour un petit peu, on fait de la com, on fait pas d'infos. Régulièrement, chaque année, le premier jour du salon, le ministre de l'Agriculture fait un grand show où il présente justement le chiffre mythique, parce que c'est vrai que c'est un chiffre essentiel dans l'économie marocaine, la récolte céréalière. Parce que compte tenu de l'importance des céréales dans l'agriculture, c'est cette récolte qui détermine le PIB agricole, lequel détermine le PIB tout court, de l'ensemble de l'économie. L'économie marocaine en est encore là. Et donc, chaque année, le ministre de l'Agriculture annonce le chiffre. Sauf cette année. Cette année, vous pouvez le verrez, le ministère de l'Agriculture ne dit pas encore la prévision de la récolte céréalière. Et donc, vous voyez bien qu'on est dans une posture où on ne cherche pas le débat, on ne cherche pas la confrontation d'idées, bien sûr, qui est créatrice, génératrice de progrès. Mais on fait simplement de la com, et c'est dommage.
D'accord avec ce point de vue, monsieur Lalonde?
Oui, d'accord, sauf que s'il n'y a pas que le débat sur l'agriculture et les options agricoles du pays, normalement, ne se tient pas seulement dans ce salon et à la foire de l'agriculture de Meknès. Normalement, il y a d'autres espaces. Mais même dans les autres espaces, s'il n'y a pas de débat sur la politique agricole du pays et même sur la politique générale des autorités publiques dans son ensemble.
Donc, limitons-nous à l'agriculture. Est-ce qu'elle est importante dans l'économie marocaine?
Elle est importante sur le plan économique. L'agriculture n'intervient que pour 15 à 16% du PIB, de la production nationale globale, sauf qu'elle concerne encore directement ou indirectement près de 45 à 50% de la population. Et sur le plan psychologique, lorsque une année agricole apparaît comme mauvaise ou très mauvaise, comme c'est le cas d'aujourd'hui, c'est l'ensemble du secteur d'activité qui souffre et qui, à l'arrivée, là, aujourd'hui, les prévisions qui sont faites à partir des prévisions de production agricole et céréalières en particulier, donne une prévision de croissance inférieure ou proche de 1%. Qu'est-ce que ça signifie? Que l'agriculture, malgré tant de politiques publiques, malgré tant de programmes de développement économique et sociaux, de plans agricoles et ainsi de suite, quelle que soit leur couleur, reste, c'est la pluviométrie qui reste le maître mot de l'agriculture.
Monsieur,
l'agriculture détermine le reste de l'économie.
La sécheresse est si grave que ça cette année?
Oui, je vous dis, malheureusement, il n'a pas plu suffisamment et surtout, il n'a pas plu à temps. Et vous savez, comme là aussi, en dépit de tout ce qu'on raconte sur la politique des barrages, sur l'irrigation, nous sommes dans un pays où 85% de l'agriculture reste finalement soumise aux aléas du climat. C'est la pluie et le beau temps qui déterminent la récolte, lesquelles, comme vient de le dire M. Lahlo, déterminent l'ensemble, en fait, les données de l'ensemble de l'économie. Et c'est important de comprendre que, en fait, 15%, l'agriculture représente 15% du PIB. Mais c'est vrai que le fait que, en même temps, cette agriculture, finalement, abrite autour de 40%, en tout cas, de la population active, en population active, de manière
C'est-à-dire générale. C'est-à-dire que 40 à 50% de la population active produit 15% du PIB.
Voilà, et c'est là le problème. Mais ça, c'est un véritable problème, d'abord, de productivité.
La surproductivité.
Ça veut dire
secteur.
Qu'on a un secteur qui ne produit pas suffisamment de valeur ajoutée pour faire vivre correctement la population concernée.
C'est-à-dire, autrement dit, il y a encore à peu près 40% de la population qui vit dans le monde rural, dans les campagnes, et près de 50% de la population active qui travaille soit directement, soit indirectement dans le secteur rural ou les activités proches de l'agriculture. Et donc, les 50%, on va dire grosso modo, de population active produisent moins de 16% du PIB. Ça veut dire qu'il y a un très fort taux soit de sous-emploi et dans tous les cas de figure une très faible productivité du travail dans le secteur agricole.
Alors les autorités marocaines ont mis en place un plan de lutte contre cette sécheresse dont vous nous parlez et Gaëlle Lalexte, la journaliste du service éco de RFI, s'est intéressée à ce plan dans la région du Souss-Massa près d'Agadir au sud du Maroc. On écoute ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Gaëlle Lalexte.
Le bassin de Souss-Massa dispose de deux barrages, celui de Youssef Ben Tachefine et celui d'Aoulouz. En septembre 2015, l'agence du bassin hydraulique a aménagé ses infrastructures pour qu'elles recueillent plus d'eau que d'ordinaire. Une stratégie fructueuse d'après Rohabou, directeur de l'office de mise en valeur agricole de la région.
Au niveau de Souss-Massa, heureusement, nous avons nos barrages qui ont des excellentes quantités d'eau qui ont été enregistrées l'année dernière. Ce qui fait que nous avons des volumes importants. Et au niveau des périmètres irrigués, nous n'avons pas constaté de sécheresse. Il y a une année normale, que ce soit au niveau de tomates ou d'agrumes, nous avons une augmentation de production.
Vous avez encore de quoi voir venir si jamais ça devait perdurer, ce problème de sécheresse?
Heureusement pour nous, nous avons pratiquement de quoi achever cette campagne agricole et commencer la campagne prochaine. D'ici là, Inch'Allah, on aura de la pluie.
Le Souss-Massa dispose de 90 000 km² irrigués. L'irrigation est indispensable aux deux cultures principales, la tomate et les agrumes, très demandeuses d'eau. Mais à quel prix? Babi Abdrani gère le domaine Jrid, qui produit des agrumes.
On a des pompes qui sont installées sur les forages et des pompes pour attirer de l'eau du bassin.
En tout, vous prenez combien d'eau du barrage, vous savez?
Environ 4000 mètres cubes par hectare, par an.
Et de vos nappes phréatiques?
50%, 50%. 4000. Environ, on peut arriver jusqu'à 10 000. S'il n'y a pas des pluies, des précipitations, on peut arriver jusqu'à 10 000 mètres cubes.
Et vous savez combien ça coûte exactement?
Pour le barrage, environ 1,60 dirham le mètre cube. C'est une dépense énorme.
La plupart des producteurs sont aussi équipés de pompes qui puisent l'eau dans la nappe phréatique. Ali Walili est maraîcher. Il a installé un système de pompage à l'énergie solaire. Un investissement colossal, mais nécessaire.
C'est les feuilles pour payer de l'eau de barrage.
Et ça vous coûte combien l'eau de barrage?
Ici, dans un compteur de 120 dirhams. Ici, c'est 3138. 3600 pour une trimestre.
C'est cher?
Pas beaucoup, parce qu'on n'a pas utilisé beaucoup de l'eau du barrage actuellement. On utilise seulement du puits.
Et vous utilisez combien de mètres cubes d'eau?
Énorme, parce que dès le début de la campagne, on utilise beaucoup d'eau pour faire des désinfections, avant la plantation. Alors après, il faut avoir presque 30 mètres cubes par jour, par hectare, une moyenne.
Les réserves des barrages du Souss-Massa ont aujourd'hui été divisées par 3. En raison de la sécheresse, les prévisions de croissance marocaine pour 2016 ont quant à elles été divisées par 2 à 1,3%.
Un reportage signé Gaëlle Lalex. Vous en pensez quoi, Najiba Kesbi, de ce recours à l'irrigation qui semble massif?
Il faut bien préciser les choses. En fait, sur une surface agricole utile, dans le pays, qui est de l'ordre de 9 millions d'hectares, 9,2, autour de 9 millions d'hectares, dans le meilleur des cas, les surfaces irriguées, c'est 1 million 4, 1 million 5. Ça n'est pas beaucoup.
C'est 15%?
Voilà, c'est ce que je disais. Donc, ça veut dire que l'essentiel de l'agriculture, en dépit de tout ce qu'on raconte, reste soumis aux aléas du climat. D'ailleurs, vous savez, sur le plan Maroc Vert, ben, depuis 7-8 ans maintenant, qu'on nous dit que ça fait des miracles. Moi, je dis une année de sécheresse. C'est un moment de vérité, en fait. C'est un moment de vérité. Cette année est un moment de vérité parce que si ce plan Maroc Vert, depuis 8 ans qui se déploie, n'a pas réussi au moins à sécuriser...
Qu'est-ce que c'est que le plan Maroc Vert?
Alors, le plan Maroc Vert, c'est une stratégie. C'est la stratégie de développement agricole qui a été lancée en 2008. Entre parenthèses, je dis c'est un plan hors sol. parce que c'est un plan qui a été élaboré, conçu par un bureau d'études étranger. Je peux vous assurer, sans grande connaissance des réalités du pays. Et puis depuis
lequel,
donc,
c'est
McKinsey.
C'est
bon,
pas, et pas seulement pour l'agriculture, pour d'autres secteurs aussi.
Vous savez, les stratégies de développement maintenant dans ce pays sont faites par les bureaux d'études étrangers. Hein, on marche sur la tête. Bon, enfin, c'est un autre problème. Pour revenir au plan Maroc Vert, et je vous dis, depuis 7-8 ans qu'on nous dit qu'il fait des miracles, mais le n'importe qui, le commun des agriculteurs, est quand même en droit de se dire, une année de sécheresse, si le plan Maroc Vert ne réussit pas en une année de sécheresse comme celle-ci, au moins à sécuriser un minimum de production, au moins à atténuer l'impact de l'aléa climatique. Alors, quelle est sa valeur ajoutée?
Il a vraiment aucune valeur ajoutée,
mais un constat, c'est que ce plan Maroc Vert a été conçu comme si le Maroc était un pays débordant d'eau et de pluie, et donc l'idée de qu'il y ait une sécheresse n'a pas pu être posée. La preuve, c'est la première grande sécheresse que le Maroc connaît depuis 2002. Depuis le début de ce siècle, et c'est la première grande sécheresse qu'affronte ce plan Maroc Vert. Et très rapidement, on se rend compte qu'il n'est d'aucune efficacité, d'aucun secours. Pour la raison toute simple, c'est que, comme vient de dire M. Akespi, que 85 à 90% de la superficie utile on se trouve en zone bourg, c'est-à-dire dans une zone qui dépend totalement des pluies, et que la superficie dont a parlé M. Akespi, les 1,4 million à 1,5 million d'hectares, c'est une superficie irrigable. Ça ne veut pas dire qu'elle est irriguée annuellement, pour la raison justement, dans votre reportage, on vient de parler des disponibilités en eau dans la région Sousse, qui est la région centrale, une région centrale du Maroc. Agadir, c'est pas le sud du Maroc, c'est le centre. C'est la partie centrale, mais on a l'habitude de dire
le sud, non, c'est plutôt.
Alors, cette partie du pays est affectée par des sécheresses récurrentes depuis de très longues années, et donc les disponibilités dans les barrages sont très faibles, et les puits, il faut aller à 200-300 mètres pour pouvoir trouver de l'eau. Et donc l'idée de dire que l'eau est disponible et qu'on a de quoi faire face à la fin de la campagne agricole actuelle et le début de la campagne prochaine, cela tient de la chimère, puisque on n'a aucune prévision sérieuse à ce propos. Et par ailleurs, l'idée est que l'eau agricole coûte très peu cher. Dans le reportage, on a entendu cet exploitant agricole parler de 1,6 dirham le mètre cube. Or, dans les villes, les consommateurs moyens dans les villes payent l'eau entre 3 et 5 dirhams. Ça veut dire que le petit consommateur moyen qui consomme de l'eau juste pour ses besoins domestiques paye pour subventionne le gros agriculteur qui exporte sa tomate et ses fleurs vers Paris ou vers Naples ou vers Saint-Pétersbourg.
Alors, il faut bien comprendre que le plan Maroc Vert fait des choses. Non, je pense qu'il a fait le choix, en fait, de donner la... En fait, c'est dans la continuité des politiques depuis 40 ans. Hein. Il fait le choix de promouvoir une agriculture, principalement, dite moderne, à haute valeur ajoutée, compétitive.
Intensive.
En fait, c'est intensive. Alors, justement, donc le premier choix, c'est en fait pour un modèle ultra-productiviste. Je dirais que c'est vraiment... Le modèle de la politique agricole productiviste des années 50. Alors qu'on sait qu'en Europe, le modèle productiviste, on connaît maintenant les dégâts, notamment au niveau des ressources naturelles, que un tel modèle a produit. Et donc, en Europe, on en tire les leçons. Au Maroc, on a l'impression qu'on n'a retenu aucune leçon de l'histoire, des expériences internationales, et donc, on est en train d'essayer de promouvoir, à coup d'ailleurs de subventions publiques, considérable, on est en train de promouvoir un modèle productiviste qui détruit les ressources, qui ne tient pas compte des limites objectives des ressources de ce pays. Nous sommes un pays où les ressources sont plutôt faibles. Sans pour autant que l'impact, je répète, sur la sécurité alimentaire, parce que c'est quand même, encore une fois, ce qui est important. On est en train de détruire des ressources pour développer des productions à l'exportation, et en même temps, on importe l'essentiel des produits de base que nous consommons.
On détruit la ressource du pays.
C'est-à-dire qu'on exporte ce qui est accessoire et on importe ce qui est essentiel, ce qui est stratégique. Maintenant, sur la question de l'eau, on détruit la ressource. Le pays dispose en moyenne annuelle de 700 mètres cubes par habitant et par an. L'agriculture en absorbe 85%. L'agriculture en absorbe 85% et on estime que sur les 85% qui sont dirigés vers l'agriculture, 60% sont perdus parce qu'ils ne sont pas usés, utilisés de façon optimale, de façon rationnelle. Et donc, du coup, on détruit de la ressource. On détruit la ressource. Et
l'eau, la ressource aquatique.
La ressource en eau hydrique.
La ressource hydrique qui est devenue extrêmement rare
dans le pays.
Alors, c'est sur cette prophétie et cette réalité difficile que se termine la première partie de cette émission. Nous nous retrouvons dans 3 minutes après un flash d'actualité.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Venez suivre est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie d'Écho d'ici, écho d'ailleurs. Émission enregistrée aujourd'hui dans le cadre du Salon de l'agriculture au Maroc, dans la ville de Meknès. Nous parlons évidemment de l'agriculture marocaine, agriculture confrontée à la sécheresse et à des relations parfois difficiles avec le marché européen. Nous en parlons avec deux invités, les économistes Najib Akesbi, enseignant à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II de Rabat, et Mehdi Larlou, professeur à l'Institut national de la statistique. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons principalement évoqué la place de l'agriculture dans l'économie marocaine et la manière dont cette agriculture fait face à la sécheresse. Nous avons parlé du plan vert, nous avons parlé de l'irrigation qui concerne 15% à peu près de l'agriculture marocaine. Nous avons vu que les ressources en eau donc étaient minoritairement utilisées dans l'agriculture. Est-ce que cela veut dire qu'il y a plusieurs agricultures marocaines? Nous allons voir ça au cours de cette émission. Mais Mehdi Larlou, vous avez utilisé au cours de la première partie une formule que j'ai retenue. Vous dites que le Maroc exporte l'accessoire et importe l'essentiel en matière agricole. Cela veut dire quoi?
Ça veut dire que nous importons les céréales, qui est un produit stratégique pour l'alimentation de la population. Puis aussi le sucre et d'autres éléments qui rentrent dans la consommation quotidienne, la consommation de base du Marocain moyen. Et nous exportons des fraises, des fleurs, des tomates et d'autres agrumes dont le consommateur européen ou américain ou même russe aujourd'hui peut très bien se passer. Et donc, du coup, nous sommes dans une agriculture, et ce salon-là le prouve, nous sommes dans une agriculture d'exposition qui va essentiellement vers les produits à l'export qui sont supposés être de plus grande valeur ajoutée. Mais pendant un long moment, on a oublié l'agriculture de base, on a oublié le petit paysan, On a oublié des productions de produits comme les lentilles ou les pois chiches qui rentrent dans la consommation de base du Marocain. Et aujourd'hui, nous sommes obligés d'importer tous ces produits de l'extérieur. Nous importons des lentilles du Canada, nous importons des pois chiches de Turquie, alors qu'au début des années 70 et même jusqu'au début des années 80, nous étions producteurs et même exportateurs de ce type de production. L'année dernière, c'était une année de production record. Le Maroc, c'est pratiquement la deuxième année de production importante de son histoire récente,
en 1968,
et puis 2015. Mais pour autant, le Maroc a déjà commencé à importer depuis déjà 3 ou 4 mois, pratiquement une quarantaine de millions de quintaux, 4 millions de tonnes, parce que même en très bonne année, on a encore besoin d'importer ce céréal dont on a extrêmement besoin.
Najib Akesbi.
Alors pour compléter un peu ce qui vient d'être dit, simplement par les chiffres d'abord. Nous importons, nous sommes un pays en dépendance alimentaire pour les produits alimentaires de base que les Marocains consomment. Qu'est-ce que les Marocains consomment? Les Marocains consomment beaucoup de céréales. Nous importons, selon les campagnes, entre 40 et 60% du blé que nous consommons. Pour le maïs, par exemple, qui est un intrant pour la production de la viande blanche, nous importons 100%.
Mais est-ce que le Maroc a jamais produit beaucoup de maïs? Non.
Le Maroc n'a jamais été
Il n'a jamais eu autant de population.
Traditionnellement, par exemple, en matière de blé, le Maroc d'abord produisait du blé dur, pas du blé tendre. Ça, c'est des changements des modèles de consommation sans être suivis par la production qui ont créé une situation nouvelle. Mais c'est pas simplement pour les céréales. Les Marocains étaient un des plus gros consommateurs de sucre dans le monde. Nous importons aujourd'hui pratiquement 70%, 65 à 70% de nos besoins de sucre. Les huiles, l'huile de graines, toutes les huiles que nous consommons, pratiquement, je peux vous dire, entre 95 et 98% de la consommation d'huile que les Marocains consomment aujourd'hui est quasiment totalement importée. Ça met le pays dans une situation d'insécurité alimentaire croissante, alors que, précisément comme cela vient d'être dit, par ailleurs, c'est vrai que le Maroc produit beaucoup de tomates, beaucoup d'oranges, beaucoup d'agrumes, enfin de fraises, beaucoup de... Ce sont des produits, il faut bien savoir, qui sont destinés à l'exportation, outre le fait, ça a été dit que ce sont des produits qui consomment beaucoup d'eau, dans un pays qui connaît des problèmes d'eau. Mais le hic de la chose, c'est quoi? C'est que, et c'est vraiment le paradoxe d'aujourd'hui, c'est qu'au moment où nous sommes acculés à importer de quoi nous nourrir, ce que nous exportons en source plus pour l'exporter, ben, rencontre de plus en plus de difficultés d'écoulement sur les marchés justement extérieurs. Et donc, le pays se trouve un peu dans une situation extrêmement difficile où il ne peut pas valoriser ses capacités d'exportation, chèrement payé, hein, en termes de coûts des ressources, et en même temps, il subit l'effet tout simplement de la dépendance alimentaire et doit subir le diktat du marché international.
Alors parons de ce marché international et des conditions qu'il impose. L'un des principaux débouchés de l'agriculture marocaine, c'est l'Union européenne, toute proche, mais l'Union européenne pose ses conditions, elle a des exigences, elle impose des normes de qualité et aussi des normes sociales, cantines, latrines, réfectoires, crèches. Les producteurs marocains doivent aujourd'hui, selon les dispositions imposées par l'Union européenne, fournir ces infrastructures à leurs ouvriers agricoles. Mais ce n'est pas toujours le cas. Un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Gaël Lalex.
Donc ici, on est où?
Nous sommes à Tussus, CMV807, la zone d'Agadir.
Ici, c'est votre exploitation?
Ah oui, c'est une exploitation propre à moi.
Vous avez combien d'hectares?
Presque 4 hectares et 3 hectares couverts.
Ali Walili produit de la tomate, entre 180 et 220 tonnes par hectare chaque année. Une trentaine d'ouvriers agricoles travaillent pour lui. Pour exporter ses tomates sur le marché européen, il a dû réaliser quelques aménagements.
La zone du fumeur, c'est la poubelle. Donc il faut avoir tout ça qui est propre. C'est interdit de fumer dans les serres.
Et ça fait partie des normes que vous impose l'Union européenne?
Ah, oui. Pour la santé des ouvriers, c'est bien. Et pour la qualité de la ferme, c'est bien.
Ça, c'est
le réfectoire des ouvriers. Ils viennent ici pour manger.
C'est une espèce de grande tente avec des tables et des chaises. Ils ont une pause pour le déjeuner?
Ah oui.
Combien de temps?
Ça dépend de la tâche. Une demi-heure jusqu'à une heure.
À quelques kilomètres de là, la ville de Khmistayt Amira. Dans ce local de la FNSA, la Fédération Nationale du Secteur Agricole, des ouvriers préparent le défilé du 1er mai. Dabash Zahra travaille dans une station d'emballage pour un grand maraîcher dont elle préfère taire le nom. En 15 ans, ses conditions de travail ne se sont guère améliorées et les normes européennes n'ont rien changé.
On a fait la demande pour un réfectoire qu'on attend toujours. Il n'y a eu aucune nouvelle infrastructure, rien. Le réfectoire, ce n'est pas le plus important. Ce dont on a surtout besoin, c'est de la crèche. On doit laisser nos enfants à des inconnus et on a souvent des problèmes. Moi, je suis debout toute la journée, 4 heures d'affilée le matin. J'ai 1h30 de pause à midi où je dois rentrer chez moi, récupérer mes enfants, les faire manger et les amener à la garderie. Je reviens pour refaire 4 heures debout. Imaginez, 8 heures debout au même endroit toute la journée. Ce n'est pas facile.
Aujourd'hui, le SMAG, le salaire minimum agricole garanti, est de 66 dirhams par jour, soit 6 euros, moitié moins que dans l'industrie. Le Maroc a misé sur une agriculture intensive et productiviste. Le faible coût de la main-d'œuvre maintient les prix bas et attire également des investisseurs européens. Mais pour Medina Rabid de la FNSA, le Maroc doit arrêter de brader sa main-d'œuvre.
On est à 10 km de l'Europe. C'est honteux d'avoir cette ségrégation dans la rémunération donc des salariés. C'est très décevant. C'est sûr que c'est une justification pour le gouvernement pour une raison purement économique, mais le gouvernement a d'autres encouragements à présenter aux investisseurs, à part le salaire des ouvriers. Donc il y a des subventions qui sont données, il y a le terrain qui est parfois vierge, il y a des incitations, je dirais, financières qui sont données aux investisseurs autre que le salaire de l'ouvrier.
Demain, les ouvriers agricoles défileront dans Agadir pour le 1er mai et demanderont l'uniformisation des deux salaires minimums.
Un reportage signé Gaël Lalex. Najib Kesbi, le fait que le salaire agricole soit inférieur au salaire payé en ville, dans l'industrie, est-ce que c'est un atout pour l'agriculture marocaine, pour attirer des investisseurs étrangers? Est-ce que cette agriculture marocaine compte sur l'investissement étranger pour se développer?
Oui, je pense que le niveau du salaire est, je dirais, plutôt un prétexte pour sous-payer les travailleurs dans le secteur agricole. Je crois que votre reportage sur ce plan est assez éloquent. Nous sommes dans un modèle qui n'est pas simplement productiviste, mais qui est aussi féroce vis-à-vis non seulement des ressources naturelles, mais aussi des ressources humaines. Mais je pense, honnêtement, pour être équitable, il faut tout de même dire que l'Union européenne, avant de poser les conditionnalités sociales, a été quand même protectionniste depuis les années 70-80. Et un protectionnisme qu'on appelait gris, mais qui passait d'abord avant par l'imposition de quotas, de contingents, de calendriers, de prix d'entrée. C'est-à-dire que on s'est aperçu quand même dans cette longue relation avec l'Union européenne que chaque fois que le Maroc arrive à développer une production, précisément en essayant de jouer le jeu de la compétition internationale, hein, notamment en exploitant les ouvriers, les ressources, etc., mais on arrive quand même à faire des produits qui sont pas très chers. Le problème est que lorsque cette production entre en concurrence avec des productions européennes, là se met en place le mécanisme de protection européen, vous dites, et qui est une constante depuis au moins 4 décennies. C'est une sorte de, je vous dis, de dialogue de sourds. D'un côté, l'Union européenne, souvent maintenant, essaie un peu d'envelopper son protectionnisme de toujours. Je dis bien, à travers, en mettant en avant évidemment des arguments qui sont, j'allais dire, politiquement corrects. Mais de l'autre côté, il faut dire que les producteurs marocains ont fait des progrès au niveau de la production, mais malheureusement n'ont pas déployé autant de progrès, d'efforts au niveau, par exemple, de la commercialisation. Justement, je pense que le talon d'Achille, c'est une incapacité à diversifier les marchés. Non, précisément déjà d'ailleurs, pour sortir un peu de ce duo avec l'Union européenne.
Alors c'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs, une émission enregistrée à Meknès à l'occasion du Salon international de l'agriculture au Maroc. Nous parlons agriculture marocaine avec deux invités, Najib Kesbi, économiste et enseignant à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II de Rabat, et Mehdi Lalou, professeur à l'Institut national de la statistique. Najib Kesbi, vous nous parliez de la diversification des débouchés de l'agriculture marocaine. Cela m'amène à parler Afrique. Les autorités marocaines ont mis en place une diplomatie commerciale très active avec l'Afrique subsaharienne. Le souverain Mohamed VI fait souvent des tournées qui le mènent à Dakar ou Abidjan, par exemple. Est-ce que, Mehdi Lalou, d'après vous, l'Afrique subsaharienne peut être un débouché réel pour l'agriculture marocaine?
Je reviens juste au sujet de du salaire minimum.
Ouais.
Le salaire minimum en milieu, dans le secteur industriel, n'est pas pour autant très élevé. Ça reste un salaire minimum très 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 faible.
D'accord.
Et le salaire agricole est encore beaucoup plus faible. Et l'idée de dire, tiens, on le colle au salaire dans le secteur industriel, n'est pas nécessairement la meilleure option. Maintenant, sur le marché africain, le Maroc, en fait, finalement, il n'est pas si ouvert que ça sur le marché africain. Ce que nous connaissons, c'est un ensemble de pays de l'Afrique subsaharienne francophone, c'est-à-dire le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée-Conakry et le Mali, grosso modo. Le problème de ces marchés, c'est que ce ne sont pas des marchés très porteurs en termes de pouvoir d'achat, en termes de capacité d'importation et en termes aussi de sécurisation des exportations par les exportateurs marocains. Et donc, ce marché, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas de nature à constituer une alternative au marché européen ou même au marché russe qui est en train de s'ouvrir, et que à la limite le marché n'est pas nécessairement le marché ni le marché international, mais le marché marocain qui n'est pas consommateur de beaucoup de produits qui sont exportés à l'international. Donc l'idée de dire tiens, il y a que les marchés internationaux qui soient de nature à tirer l'agriculture marocaine n'est pas nécessairement la meilleure, et que l'agriculture marocaine aujourd'hui, en fait, elle a été façonnée par l'approche de l'Union européenne, de la communauté économique européenne, dès le début des années 60. C'était de dire aux Marocains, vous avez beaucoup d'eau, vous avez beaucoup de soleil, vous avez la capacité de produire un certain nombre de productions dont nous avons besoin. Donc le Maroc s'est dirigé dans cette optique, dans cette option. Et aujourd'hui, évidemment, il se trouve coincé par rapport à une approche stratégique de longue durée qui n'a pas beaucoup changé depuis le début des années 60 et ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés européens, notamment où les produits espagnols et puis accessoirement italiens ou grecs nous font une concurrence féroce qui font que l'exportateur marocain est poussé à chercher d'autres débouchés en Russie, en Moyen-Orient et aujourd'hui en Afrique subsaharienne.
Alors justement, nous avons rencontré avec Mathieu Salabert, le réalisateur de cette émission. Hier, nous avons rencontré l'un des dirigeants africains qui est présent à ce salon de l'agriculture à Meknès. C'est le ministre de l'agriculture du Gabon, Mathieu Bumba, qui lui attend beaucoup du Maroc.
Le Maroc peut servir aujourd'hui de locomotive en termes de l'agriculture à d'autres pays de l'Afrique. On importe beaucoup du Maroc du point de vue des produits vivriers. Nous importons beaucoup de légumes, surtout des produits fruitiers. Il y a des dispositions naturelles qui sont là pour faire du Gabon un pays agricole. Sauf que pendant longtemps, nous nous sommes contentés des revenus du pétrole et on n'a pas pris à bras le corps le secteur agricole.
Et puis il y a un autre marché qui s'est ouvert aux productions marocaines, c'est le marché russe, vous en parliez à l'instant, Mehdi Lalou. Depuis 2011, le transporteur maritime danois Maersk a affecté 3 cargos au transport des fruits et légumes marocains. Ces 3 navires partent tous les dimanches d'Agadir. En une semaine de navigation, 8 jours en réalité, ils sont à Saint-Pétersbourg. Mohamed Mehdi Ben Brahim est le responsable marketing et commerce de Seago Line, filiale de Maersk, qui gère cette rotation. Il répond aux questions de Gaël Alex.
C'est parti d'un besoin grandissant sur le marché russe, notamment sur le segment des primeurs, principalement la tomate. Aujourd'hui, la tomate est un produit qui est hautement périssable et qui a besoin d'une solution logistique adaptée. Donc d'ouvrir une ligne qui arrive à connecter le port d'Agadir principalement et le port de Saint-Pétersbourg pour une durée de voyage qui soit la plus courte possible. Et là, on a commencé en 2009, où à l'époque c'était du 9 jours. Cette année-là, on a amélioré un petit peu notre offre en réduisant le transit time à 8 jours. Bon, un jour de différence paraît négligeable, mais pour un produit comme la tomate, ça peut énormément impacter la valeur commerciale du produit.
Avec le changement de politique, la Russie est en train de boycotter les fruits et légumes européens, depuis peu également ceux qui viennent de Turquie. On a le sentiment donc que la ligne Agadir-Saint-Pétersbourg a de beaux jours devant elle.
Peut-être oui, peut-être non, on ne sait pas. En tout cas, nous, on a le mérite d'avoir une ligne qui est assez rapide. Actuellement, il n'y a pas de produits similaires, mais il n'y a pas de garantie que cela soit le cas pour les années futures. Mais maintenant, une augmentation potentielle, on va dire, de la demande russe, ou plutôt un changement de sourcing, si vous voulez, de la Russie sur le Maroc, c'est pas systématique, mais probablement. On pense que cette année, c'est-à-dire que pour la campagne en cours, le tonnage en tomates sur la Russie serait beaucoup plus important que les années précédentes. Peut-être une croissance est là, il m'est difficile de la quantifier.
Quels sont les éléments qui vous font douter ?
Il y a beaucoup de fluctuations. On a vu des périodes où il y a eu des demandes importantes et d'autres où la demande a été moins importante que ça.
Par exemple, l'année dernière, la demande n'avait pas été exceptionnelle pour des raisons monétaires ?
Oui, la demande de la Russie l'année dernière, face à, on va dire, une certaine limitation en pouvoir d'achat, a fait que la demande a un petit peu baissé. Donc, bien sûr, ça a un impact sur les volumes exportés depuis le Maroc. En tout cas, pour nous, il y a eu une certaine période de ralentissement des volumes. Le marché se redresse petit à petit. Dans tout marché, vous avez des périodes de pic, vous avez des périodes où la demande est moins importante. Et je pense que la Russie ne fait pas l'exception.
C'était une interview réalisée par Gaël Alex. Mehdi Lalou, je vous voyais sourire. Vous en pensez quoi de cette ligne vers les Russes? C'est un mirage?
C'est juste que là, le marché russe est très versatile. Et le Maroc déjà était un très gros exportateur vers le marché russe du temps de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Il y avait un grand échange qui se faisait aussi par le système du troc. On vendait des tomates, des agrumes et ainsi de suite sur le marché russe et on recevait des matériels d'autre nature. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans votre entretien, on a oublié les événements politiques de la région, la question de l'Ukraine, les disputes diplomatiques et même la presque guerre froide entre la Turquie et la Russie qui font que, évidemment, les Russes sont en train de chercher d'autres marchés. Et il est clair que demain, la situation changeant en en Ukraine ou la situation se rétablissant avec la Turquie, il est clair que les Russes ne mettront pas 9 jours ou 8 jours ou même 7 à attendre leurs tomates. Ils iront sur le marché turc pour acheter ce
qui est proche,
ce qui est beaucoup plus proche et donc nécessairement beaucoup moins coûteux. Et d'ailleurs, dans l'entretien, on voit bien que il n'y a pas de vision sur le long terme. Donc aujourd'hui, il y a 3 bateaux. Demain, peut-être, il n'y en aura que 2 ou 1. Ou demain, peut-être, il y en aura 5 ou 6. Donc il n'y a pas de prévision qu'on puisse faire sur le long terme. Le marché étant un marché très peu sûr, sur lequel il n'y a pas d'engagement politique et institutionnel sérieux.
Najib Akazbi.
Alors, comme je ne me suis pas exprimé sur l'Afrique, je vais quand même dire un mot. Je pense que c'est très, très important de ne pas cultiver des illusions inutilement. De quoi est-on en train de parler ? On est en train de parler, en gros, pour faire simple, de 5 pays sur 50. Et ce sont des petits pays. Ce n'est pas le marché du Nigeria.
Mais ça peut être une porte d'entrée.
Il y a des possibilités incontestables, mais ce sont des petits marchés et surtout, il faut savoir, et ce n'est pas des problèmes d'hier d'ailleurs, il y a toujours eu quoi, les obstacles, c'est la logistique. Tout bêtement, justement, vous parlez de lignes avec la Russie, mais il n'y a pas de possibilité de transport dans des conditions sanitaires, de rapidité, etc. En Afrique, il n'y a pas, tout simplement, il n'y a pas de logistique, de moyens de transport. Il y a les moyens de paiement. En dépit de la présence d'un secteur bancaire marocain en Afrique, mais figurez-vous que les banques marocaines ne collaborent pas, ne contribuent pas à soutenir les exportateurs marocains de fruits et légumes dans les pays où ils sont présents. Parce que, par exemple, ça fait partie de ces problèmes que les exportateurs marocains soulèvent. Ouais. Pour arriver à la Russie, on sait effectivement que la Russie a été traditionnellement un marché important. Il a recommencé à se développer depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. Parce qu'effectivement, il est très ancien. Mais l'opportunité de l'embargo après la question de l'Ukraine est réellement quelque chose qui aurait dû être une opportunité, qui aurait dû être prise en compte, exploitée, parce qu'elle est providentielle. Je veux dire, le potentiel
par les
exportateurs marocains, par les exportateurs marocains, notamment de fruits et légumes, des légumes primeurs, des agrumes, etc.
Mais ils l'ont pas fait.
Ils ne l'ont pas fait.
Mais pourtant, il y a ces trois rotations.
Savez-vous que lors de l'entretien entre le roi du Maroc et Poutine, il y a un mois, une des observations qu'a faite Poutine au roi du Maroc, c'est celle-ci. Il a dit, je ne comprends pas, vous avez une opportunité extraordinaire et vos exportateurs n'ont pas tiré avantage réellement de cette opportunité. Il y a là, incontestablement, une responsabilité qui est celle des exportateurs, des opérateurs marocains. On passe notre temps à mettre la responsabilité du côté des gouvernants, ce qui est vrai. Mais là, la responsabilité des exportateurs est énorme. Par exemple, il y a deux ans, on a envoyé des expéditions de produits qui n'étaient pas mûrs. On a souvent traité un peu ce marché comme si c'était un marché secondaire. On envoie un peu des produits qui ne sont pas tout à fait au top, comme ceux, par exemple, qu'on envoie sur les marchés de l'Union européenne. L'année dernière, par exemple, les exportateurs se sont mis à exiger, par exemple, une avance, c'est-à-dire une garantie de 80% avant d'envoyer le moindre kilo. Résultat, les importateurs russes, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils répercutent. Résultat, c'est en dernier lieu le prix du produit qui se trouve plus élevé sur le marché. On est donc moins compétitif. C'est-à-dire, il y a à la fois un comportement vis-à-vis de ce marché qui n'est pas correct. En plus d'un dynamisme qui, le moins qu'on puisse dire, est défaillant. On n'innove pas en matière de marketing, en matière d'image de marque, en matière de développement des circuits innovants, etc. De sorte que nous sommes en train de rater une occasion en or. Demain, je vous donne un exemple. Les Turcs, qui sont aussi sous embargo, exportaient les Turcs,
oui, les Turcs
vers les Russes,
oui,
vers
la Russie, c'est ce que je vous précise.
Exportaient 350 000 tonnes. C'est 80% de l'ensemble de nos exportations.
L'agriculture marocaine pourrait faire face à ces
demandes. Mais bien évidemment, on avait là un boulevard qui s'ouvrait et qui malheureusement n'a pas été, en tout cas à ce jour, n'a pas encore été exploité. Les Égyptiens, par exemple, gagnent du terrain sur le marché russe. Les Égyptiens gagnent du terrain au détriment des Marocains. Il y a un problème.
C'est-à-dire, toute proportion gardée, c'est la même chose se passe pour le secteur touristique. Normalement, il y a 4 millions de Russes qui allaient sur le marché, sur la zone touristique turque. 4 millions à la fin de l'année 2015, lorsque la Russie a décidé de l'embargo. Donc, les Marocains n'en capturent aujourd'hui, n'en prennent aujourd'hui que quelque chose comme 8 à 15 000 touristes turcs. Et donc, proportionnellement.
Mais c'est un autre problème, je veux dire,
les deux secteurs sont presque semblables de ce point de vue. La responsabilité des opérateurs marocains, des opérateurs agricoles, des opérateurs touristiques qui ne vont pas chercher ailleurs que dans les marchés traditionnels, qui est le marché européen.
Alors, pour terminer cette émission, je voudrais revenir sur un point que vous avez soulevé, c'est le marché marocain lui-même. Medila Aloun, Najiba Kesbi, vous en avez parlé tous les deux. Le gouvernement marocain, par exemple, vient de décider de taxer les importations de céréales à hauteur de 30%. Est-ce que ça n'est pas une mesure protectionniste destinée à favoriser la production locale ?
Non, je veux dire, ça, c'est pas une, c'est simplement une mesure de régulation du marché. C'est-à-dire que parce que le prix, il y a un prix garanti pour le blé tendre, hein, pour la production intérieure. Et pour maintenir ce niveau du prix intérieur, il est évident qu'il faut réguler les importations. Donc lorsque les cours à l'importation sont en dessous des prix intérieurs, le gouvernement, effectivement, établit un droit de douane, mais non, c'est pas la protection, puisqu'on continue à importer de toute façon. Mais c'est simplement pour relever le coût à l'importation au niveau du prix intérieur. C'est une mesure de régulation, simplement.
Une explication très claire du professeur Najiba Kesbi. Cette émission est maintenant terminée. Nous étions à Meknès, au Salon international de l'agriculture au Maroc, avec le concours financier de l'Union européenne. Merci à vous deux, donc Najiba Kesbi et Mehdi Lalou, d'avoir fait le déplacement jusqu'à ce petit studio improvisé près des grandes tentes du Salon de l'agriculture. Merci à Mathieu Salabert qui a réalisé et mis en onde cette émission. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.